Bonnefeuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, l'inconstance des démons, d'Eugène Green.
Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne. On se heurtait. Les colis montaient entre les deux tambours et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d'une nuée blanchâtre tandis que la cloche à l'avant tintait sans discontinuer. Enfin, le navire partit et les deux berges peuplées de magasins, de chantiers et d'usines filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longues cheveux et qui tenait un album sous les bras, restait auprès du gouvernail immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms, puis il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis, la cité Notre-Dame. Et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Gustave Flaubert, l'éducation sentimentale. Flaubert reste une sorte d'idéal pour moi. Et c'est un début de roman qui évoque d'une manière très simple, finalement, une situation. Cette situation n'a rien de dramatique, en fait, mais le lecteur comprendra par la suite que tous ces éléments sont importants. En fait, Frédéric Moreau, il voit Paris comme un objet de désir. Paris disparaît. Et il va revenir à Paris et vivre sa jeunesse à Paris, mais finalement, il ne connaîtra pas plus de réalité que ce qu'il a connu là à 18 ans sur le bateau. Dans les romans du 19e siècle, je poserai Flaubert à Balzac. Et Balzac, je n'apprécie pas énormément. Et Balzac, finalement, il est toujours en train de se regarder écrire, et que il utilise des mots et des expressions dont il est sûr que son lecteur ne les comprendra pas. Et du coup, il ne transmet pas quelque chose de réel d'extérieur à lui, mais il se transmet lui-même. Contrairement à Flaubert, il fait des analyses psychologiques des personnages, des analyses sociologiques, ce que Flaubert ne fait jamais. L'idée de base de tous mes romans, de tous mes films, ça vient toujours dans un éclair, en général avec le titre. Et là, je ne me souviens plus, c'était pendant un été, en tout cas. J'étais peut-être au Pays Basque, puisqu'en été, souvent, je passe des périodes au Pays Basque. Et je sais que c'était en été, et donc c'était bien possible que j'ai commencé au moins à écrire le plan, puisque je fais un plan comme Flaubert. Et les éléments sans doute qui sont entrés dedans, c'est d'une part une grande affinité que je ressens avec le Pays Basque et avec les Basques. D'ailleurs, c'est le sujet de mon dernier film qui n'est pas encore sorti, un documentaire qui s'appelle « Faire la parole » sur les Basques. Un intérêt pour le jansénisme, en fait, qui est né intellectuellement au Pays Basque, puisque celui qu'on appelle Saint-Cyran, c'était pas son nom, c'était l'abbé de Saint-Cyran, il était originaire de Bayonne et il a passé 5 ans avec Janssen dans sa maison à côté de Bayonne à développer les bases théologiques du jansénisme. Donc l'idée du mal et de la grâce. Et puis, j'avais lu aussi de grands passages du livre de Pierre de Lancre, donc le magistrat bordelais, chargé d'instruire les grands procès en sorcellerie du côté nord, c'est-à-dire français, du Pays Basque, au début du XVIIe siècle. Et le titre de mon roman est emprunté à ce livre, puisque ce livre s'appelle « De l'inconstance des mauvais anges et des démons ». Et il y avait aussi le procès d'Outreau qui malheureusement est de nouveau d'actualité et qui pour moi a un rapport avec ce qu'on lit dans le livre de Pierre de Lancre, la façon dont il interrogeait les gens et dont il trouvait des coupables.
Et la première ligne, les premières lignes que nous allons entendre, elles ont été toutes premières dans l'écriture ?
Oui. En tout cas, la première phrase, c'est certain. Cette phrase m'est venue. C'était peut-être le point de départ vraiment de l'écriture du roman.
Alors, on vous écoute.
Dans la première partie de ma vie, je fus heureux. J'étais le cadet de trois frères. Notre père était propriétaire de la pharmacie Astara, dans la rue du Port-Neuf à Bayonne. Bien qu'il représentât la troisième génération à pratiquer dans la même officine et à habiter la même maison, des deux côtés, notre famille avait des ancêtres paysans. Avant le premier maître des bocaux, les aïeux de mon père cultivaient des terres au pays de Garassi, en Basse-Navarre, et à l'époque de mon enfance, mes grands-parents maternels vivaient encore dans leur ferme Labourdine, près d'Espeleta. Chez nous, nous parlions toujours Euskara, que je considère comme ma langue maternelle. Notre maison se trouvait dans le Grand Bayonne, entre la cathédrale et les remparts. Cela fait longtemps qu'elle a été vendue, mais quand je me promène dans ce quartier, qui n'a guère changé depuis, j'éprouve le même sentiment de paix qui m'inspirait enfant. On dirait que le lieu est investi de quelque puissance qui, sans signe perceptible, le protège de la violence du monde. Nos parents étaient catholiques pratiquants, comme l'était à l'époque la plupart des Basques, et tous les dimanches nous assistions à la messe, en général à la cathédrale. Après quoi, nous faisions un tour en voiture pour rendre visite aux grands-parents maternels ou pour nous promener du côté de Donibane-Garassi, berceau de la famille paternelle. C'était des moments banals, dont la douceur me revient parfois dans des bouffées de mémoire. Mais tout cela est loin maintenant. Quand j'entrais à l'école primaire, les Ikastolak n'existaient pas encore. Je commençais ma scolarité dans des établissements catholiques où nous avions des cours de basque. Puis je la continuais dans un lycée républicain où il était interdit de parler cette langue, même pendant la récréation. J'étais assez bon élève dans toutes les matières et pas trop mauvais en sport. Au moment où il fallut choisir les études qui détermineraient mon métier, j'hésitais. Je lisais énormément, j'avais un goût pour les livres et je pratiquais même, à une échelle très modeste, la bibliophilie. Mais la famille nous faisait subir une pression occulte pour nous orienter vers les professions de santé. L'aîné de mes frères entreprit des études de pharmacie, le deuxième devint kinésithérapeute, et moi finalement, sans savoir si j'agissais vraiment de plein gré, je décidai de commencer la médecine. Comme mes aînés, je partis étudier à Bordeaux. C'était à la fin des années 1960, et la ville était alors provinciale, triste et noire. Elle n'a pas beaucoup changé depuis, sauf qu'aujourd'hui, ces pierres sont bien frottées et elle a un tramway. Mon logement était une chambre dans le quartier Saint-Michel. À part le lavabo à l'eau froide, qui parfois se bouchait, le confort était à peu près celui du Moyen-Âge. Mais à 17 ans, ayant pour la première fois de ma vie la possibilité d'habiter ailleurs que chez mes parents, je me sentais très bien dans ce quartier, lui aussi médiéval, et qui laissait croire que Bordeaux avait été une belle ville avant d'être foudroyée par les Lumières. Pendant les deux premières années de mes études, mes frères habitaient encore la même ville que moi, mais je restais assez seul. Tout en vivant en bonne entente, nous n'avions jamais été proches, et dans ce nouvel environnement, nous suivions chacun notre chemin, comme nous l'avions fait à Bayonne. Il nous arrivait de déjeuner ensemble au restaurant le dimanche, souvenir des repas en famille, ou d'organiser une fin de semaine chez nos parents. Mais nos rapports ne dépassaient jamais ces limites. J'avais aussi quelques camarades, étudiants en médecine comme moi. Nous nous voyions à la faculté, nous tenions des séances communes de révision, et de temps en temps nous sortions ensemble le soir, la vie nocturne bordelaise nous permettant essentiellement un restaurant bon marché suivi d'une bière dans un café, à condition d'entrouver un d'ouvert. J'étais déjà en troisième année de médecine lorsque je fis la rencontre la plus importante de la première partie de ma vie. C'était à une soirée d'étudiants qu'un condisciple, profitant du fait que ses parents étaient à l'étranger, avait organisé dans le grand appartement familial. Il s'agissait précisément d'une « boum », terme qui à Bordeaux avait encore beaucoup de cachet. Je restais à l'écart à regarder les autres danser, quand tout d'un coup je me rendis compte de la présence à mes côtés d'une jeune fille qui contemplait les invités de la même façon. Se sentant l'objet de mon attention, elle se tourna vers moi. Je la trouvai très jolie, mais je fus frappé avant tout par son regard. Je l'invitai sur la piste. C'était le début de la danse moderne où il n'y avait ni de pas ni de règles à apprendre et où il suffisait de s'agiter face à sa partenaire. Je m'en tirais pas trop mal, et elle aussi. Elle s'appelait Victoire. Plus tard, j'appris qu'elle était d'une famille bascophone de Donibane Lohitsun et que chez elle on l'appelait Bitiori. Elle devait quitter la soirée assez tôt, car le foyer de jeune fille qu'elle occupait au Chartron faisait respecter des horaires très stricts, mais elle me permit de la raccompagner. L'établissement interdisait aux pensionnaires de recevoir des communications téléphoniques, mais je pouvais lui écrire. Bitiori, c'est ainsi que je l'appellerai par la suite, était en troisième année d'études de lettres. La communication épistolaire s'avérant peu commode, j'appris son emploi du temps à la faculté, et en fonction aussi du mien, nous établîmes des rendez-vous plus ou moins réguliers après les cours. Nous profitions de ces rencontres pour organiser nos sorties le soir. Au fur et à mesure que nous nous connaissions mieux, la timidité de Bitiori se transformait en douceur intelligente. Elle lisait beaucoup, et nos conversations sur la littérature réveillèrent mon intérêt pour les livres. Très sensible aux problèmes des autres, mais non dans un sens abstrait ou politique, elle ressentait une compassion immédiate d'elle qu'elle se trouvait face à une souffrance humaine. Dans notre rapport, il y avait aussi, bien sûr, une attirance sensuelle. Elle restait d'autant plus forte que dans un premier temps, nous n'avions aucun moyen de la satisfaire au-delà de baisers donnés dans des lieux publics. Le foyer où habitait Bitiori était mieux gardé contre toute intrusion masculine qu'un couvent de carmélites, et à l'époque, ça aurait été dégradant pour elle de venir dans ma chambre. Finalement, l'occasion que nous attendions se présenta au moment des vacances de Pâques, car les parents et la sœur cadette de Bitiori entreprirent un voyage à Rome, tandis qu'elle demeurait seule à Donibane Lohitsun, où elle m'invita à la rejoindre. Lorsque j'annonçai à mes parents ma décision de passer les vacances à Bordeaux pour préparer mes examens, ils se doutèrent peut-être de la vérité, mais ils choisirent d'accepter mon explication. Chez mon ami, il fallait observer une extrême discrétion afin d'éviter d'être dénoncé par les voisins, mais cela ajoutait au plaisir d'être enfin ensemble dans l'intimité, isolé du monde. La découverte de la sensualité ne changea rien à nos sentiments. Elle les approfondissait. et on défait les entraves que crée le désir inassouvi, nous nous trouvions encore plus libres pour nous rapprocher l'un de l'autre. Au début de l'été, nous annonçâmes à nos familles nos fiançailles qui furent bien acceptées. Pour nous, elles n'altéraient rien et donnèrent lieu à une série de visites et de présentations peu agréables, mais elles nous autorisèrent à partir en vacances ensemble, sans péché. À la rentrée, ma bourse fut un peu augmentée et je louai dans le même quartier un studio un peu moins sordide que la chambre que j'occupais auparavant. Maintenant, Bittiori, qui habitait toujours le foyer, passait parfois la nuit chez moi. Ce comportement immoral provoqua son expulsion de la résidence de demoiselle. Craignant de nuire à mon travail, elle refusait de partager mon logement et loua, avec l'accord de ses parents, un minuscule studio non loin du mien. Cet arrangement fonctionnait très bien pendant 3 ans. C'est un chant assez d'origine qui a été écrit au XXe siècle, mais dans un style traditionnel. Et c'est la plainte d'une mère qui tient son petit enfant et dont le mari pêcheur est parti en mer et n'est pas encore revenu. C'est un chant assez angoissé. Et l'atmosphère du roman est un peu angoissante. Mais en même temps, dans la musique, il y a quelque chose, par la musique, en fait, quelque chose de rassurant, de lumineux. Et je pense ou j'espère que le roman, finalement, laisse une impression de lumière chez le lecteur.
Merci, Eugène Gris. C'était Eugène Green qui présentait son roman « L'inconstance des démons » à paraître aux éditions Robert Laffont. Thank you.
Bonne Feuille. Sandrine Trenner, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Jean-Louis Deloncle.